la musique.
Caravanana maximum.
Ta gueule, ta gueule.
Je me fous du
sale, 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 sale.
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon!
Vive le soleil!
Vive
les oreilles!
Libre!
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne et à Waller, au Texas, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuses. Et il va bien être question de ça aujourd'hui, puisque nous allons parler de Daniel Johnston. Alors, je vais présenter nos invités. Enfin, vous allez vous présenter vous-même, et je vais dire vos noms, tout simplement. Sandra Rignoux et Xavier Lelièvre. Alors, nous vous invitons dans le cadre d'une exposition à la médiathèque musicale de Paris qui aura lieu du 27 septembre au 8 novembre. C'est ça, merci. Oui. Bravo. Ah. Et bah, peut-être, y a notre ami Grégoire Bressac qui est avec nous. Bonjour. Et peut-être, la première question, ce serait de vous présenter. Qui êtes-vous? Et aussi, j'aimerais bien que vous nous parliez de la façon dont vous avez rencontré, dont vous êtes rentré en contact avec l'œuvre de Daniel Johnston. L'œuvre. Peut-être Sandra.
Alors, merci beaucoup, Christophe. Bonsoir à tous. Donc moi j'ai écouté Daniel Johnston au tout départ chez mes parents, c'était l'année du bac de la terminale. J'étais dans les toilettes en fait chez mes parents, j'ai une sœur aînée qui dans sa chambre écoutait Daniel Johnston et j'ai en fait dans les toilettes, j'écoutais, je me suis dit tiens, il a une voix particulière ce chanteur, j'avais envie de découvrir qui c'était. Et une fois que ma sœur était partie de sa chambre, je suis allée lui piquer son disque, ma sœur aînée. Et en fait, il s'agissait du disque Fun à l'époque. Et donc, j'ai écouté et j'ai beaucoup aimé. Et après, j'avais vu aussi qu'il y avait un petit article dans Les Inrecuptibles à l'époque qui parlait en fait de ce disque qui était sorti. Et j'ai vu aussi qu'on pouvait commander au Texas les cassettes de Daniel Johnston en écrivant un label qui s'appelait à l'époque Stress Records. Chose que j'ai fait et après j'ai reçu plein de cassettes et je n'ai plus arrêté d'écouter Daniel Johnston en boucle toute l'année de ma terminale en fait. Avec mon Walkman à l'époque, on avait des Walkman.
T'as loupé ton bac j'imagine du coup?
Non, pas du tout.
Ah bon, d'accord.
Non, c'est que je m'ennuyais plutôt dans les couloirs et donc voilà.
Ça, il y a moyen de s'ennuyer à l'école. Et toi Xavier, alors j'ai pas dit mais tu es également l'auteur de Sorry Entertainer.
Tout à fait.
La production artistique de Daniel Johnston de 1979 à 1986. Tu interviendras dans le cadre des événements qu'on va détailler plus tard dans le cadre de cette exposition. Et qui es-tu? Et pareil, comment es-tu rentré en contact avec Johnston?
Qui je suis, du coup, tu l'as très bien résumé. Donc, j'ai écrit ce livre parce que je suis donc musicologue de formation. Alors en ce qui concerne ma rencontre avec Daniel Johnston, elle est sans doute un peu moins romanesque que celle de Sandra, parce que moi c'était vraiment dans le cadre de mes études, j'étais en master de recherche, donc il fallait que je trouve un sujet de recherche. J'ai donc été sensibilisé au travail de Daniel Johnston et toute la question du lofi et de la musique indé. Et puis c'est après suite à ce mémoire par rapport au retour qu'on m'a fait également sur tout ça que je me suis dit. Que l'œuvre de Johnston était très peu étudiée, on en parlait encore moins en France qu'ailleurs. Et donc voilà, avec cet objectif, j'ai contacté des éditeurs et je suis là. Voilà.
Alors peut-être on n'a pas dit ce qu'on avait écouté en début d'émission.
Alors on a écouté Grievance. Grievance qui est une chanson tirée d'un des premiers albums, on parle d'album même si c'est un peu confus dans le cas de Daniel Johnston la notion d'album, mais en tout cas sorti dans son premier album connu Songs of Pain en 81, si je me trompe pas.
Ça doit être ça.
Voilà,
je
on
sais
coupera.
Pas exactement.
Ok, alors peut-être pour nos auditeurs, pour tout le monde, je crois qu'il faudrait quand même brièvement, parce qu'on va abondamment en parler, mais brièvement pour dresser un portrait, qui est Daniel Johnston et est-ce que tu peux nous parler de son travail?
Alors moi toujours.
Ouais.
Qui est Daniel Johnston? C'est un artiste assez complexe, pas que musicien, pas que plasticien, pas que un peu tout ce qu'on veut. C'est vraiment quelqu'un qui a réussi à synthétiser un peu tout ce qu'il aimait et toutes les choses qui l'habitaient et qui l'aidaient à créer et qui le touchaient. Et il a fait ça en fait de façon très naturelle, très spontanée, dès son plus jeune âge, jusqu'à encore aujourd'hui. C'est assez saisissant en fait quand on s'intéresse à son œuvre. De se rendre compte que tout est lié, que tout se relie, qu'il y a vraiment une véritable cohérence. Quoi.
D'accord. Ouais. La particularité, en fait, c'est peut-être le matériel, avec lequel il s'enregistre. C'est pas, enfin, on l'a entendu, c'est quand même pas anodin.
C'est pas anodin. Après, ils étaient très nombreux à faire, enfin, agir comme ça à l'époque. Oui. Mais après, oui, c'est assez symptomatique de sa façon de composer, même de créer. C'est vraiment, il y a quelque chose de l'ordre de l'urgence, quelque chose de l'ordre de la débrouille. Donc ça s'est retrouvé dans ses enregistrements, mais également dans ses dessins, avec la façon dont les outils dont il s'empare pour dessiner, la façon dont il enregistre. Ouais. Il a vraiment besoin, voilà, de s'exprimer tout de suite et de façon massive, quoi.
Ouais, parce que l'âme matérielle, c'est quoi? C'est un magnétophone.
C'est ça, ouais, c'est un magnétophone, c'est un 4-pistes, et puis avec des instruments de fortune selon ce qui l'entoure, quoi.
Alors moi, il y a un truc qui est toujours pas clair pour moi. Alors peut-être c'est sciemment que tu développes pas ça dans ton bouquin, au même titre que dans les expos d'art brut, on parle pas forcément de la maladie. Moi, je sais toujours pas son état mental, qu'est-ce qu'il a en fait. Alors j'ai compris qu'il était bipolaire, mais en même temps, je sais pas est-ce qu'il est déficient mental, par exemple. C'est pas clair pour moi, parce que tu vois, il parle de Casper le fantôme, enfin il a des Captain America, tout ça, même adulte, et il est croyant également. Alors je suis pas en train de dire que croire en Dieu c'est une déficience mentale, encore que je sais pas, mais... enfin tu vois, je sais pas trop quel est son état en fait. Alors, et puis en plus, je crois que ça a évolué.
Je crois que la première fois où il a ressenti des problèmes, c'est quand il était, son année après la terminale, enfin l'équivalent de la terminale, qu'il a commencé dans une école d'art. Il commençait à avoir des douleurs en fait, un peu partout dans son corps. Ouais. Et je crois que c'était lié à un état de maniaco-dépressivité. C'est ce qui avait été à l'époque diagnostiqué. Et je crois que il s'en est jamais vraiment remis de cet état-là. Mmh. Donc ça veut dire qu'il a des états où il est hyper productif, où tout va super bien, et après il y a des bas. Mmh. Et après, tout au long de sa carrière, ils ont essayé de trouver des traitements, et ça a plus ou moins bien marché. Et puis il y a aussi des fois où il le prenait mal, son traitement, donc là il pouvait péter un câble.
Il veut aussi la drogue, si j'ai bien compris, à un moment.
Et à un moment donné, en plus, il a effectivement pris des acides, je ne sais pas quel type de drogue exactement. Ouais. Donc ça n'a pas du tout arrangé son état. Et je crois que, au bout d'un moment, ils ont réussi quand même à trouver un traitement qui lui réussissait. Et donc là, il a fait quand même pas mal de concerts à ce moment-là, etc. Ouais. Et puis ses parents, en tout cas son père, quand il se déplaçait pour faire des concerts, il était toujours avec lui pour faire attention à ce qu'il prenne ses médicaments, etc. Après, c'était son frère. Mais il est schizophrène et maniaco-dépressif, quoi. Voilà, il l'est toujours, mais grâce aux médicaments, il arrive à...
C'est stationnaire, quoi.
Il arrive à s'en sortir, quoi, je sais pas.
Il est stabilisé, comme on dit. Bon, je propose qu'on écoute un deuxième morceau. Qu'est-ce que vous nous conseillez?
Allez, Xavier, à ton tour.
À mon tour. On peut partir sur Some Things Last a Long Time, de l'album 1990. Pardon, je le dis pas en anglais, mais comme ça, je le dis mieux. Donc un album qui est sorti en 1990, sans surprise.
Voilà, et alors, excuse-moi, je te coupe juste, c'est parce que dernièrement, ce titre-là a été repris par Lana Del Rey, il faut le dire quand même. Donc une de ses fans, super. On la salue, oui.
Blue is pure.
Voilà, Sandra, peux-tu nous parler de ce qui va se passer à la médiathèque musicale de Paris du 27 septembre au 8 novembre ?
Avec plaisir. En fait, j'ai profité de la sortie du livre de Xavier Lelièvre qui s'appelle Sorry Entertainer, qui est sorti en avril 2017 aux éditions Camion Blanc. Quand j'ai vu ce livre, je dis waouh, enfin un livre en français sur Daniel Johnston, c'est le premier. Et ça m'a donné envie de faire une exposition des dessins en fait, que j'avais récupérés. Compilé depuis un certain nombre d'années, puisque j'avais eu une relation épistolaire avec Daniel entre 1999, depuis notre rencontre à son concert à Berlin, en fait, le 6 juin 1999, et à peu près fin 2003. Et à chaque fois qu'on s'écrivait, Daniel m'envoyait des dessins avec ses lettres, donc c'est une cinquantaine de dessins qui seront présentés donc à la médiathèque musicale de Paris. Le vernissage, c'est le jeudi 27 septembre et c'est jusqu'au 8 novembre. Et ce sera en fait l'occasion aussi pour des groupes plus ou moins connus de faire des reprises de Daniel pour lui rendre hommage. Ouais. Et tant qu'on est vivant, c'est encore mieux. et aussi en fait de faire découvrir d'autres groupes peut-être un peu moins connus mais tout aussi intéressants.
On en reparlera de ça, voilà. De la programmation après. Alors tu dis que le premier contact c'est un concert, t'as été le brancher à la fin du concert ou comment ça s'est passé?
Eh bien déjà à la base c'est au mois d'avril 99, je crois que c'était en avril, je suis pas très sûre, à Eindhoven il y avait une exposition des dessins de Daniel Johnston aux Pays-Bas et j'étais à l'époque en relation avec Jeff Tartakov avec qui j'écrivais toujours. Voilà, et donc il m'a dit, écoute, si tu veux aller voir une expo, vas-y, il y en a une en ce moment, donc j'y suis allée, et voilà, j'y suis allée, je suis revenue, et après Jeff Tartakov me dit, bah écoute, si tu veux, il y a un concert à Berlin au mois de juin 99, donc il me donne les coordonnées de la personne en fait qui avait organisé l'expo à Eindhoven, et qui connaissait la personne à Berlin qui organisait ce concert, qui s'appelle Enignas. Et forcément, donc moi j'écris à cette personne, Marie Reinders, la personne qui avait organisé l'exposition à Eindhoven, pour lui dire que je viens à Berlin. Et donc, grâce à cette personne, Marie qui connaissait Henning Nass, j'avais la possibilité d'être à la balance, au son, enfin au soundcheck, au pied de la scène. Donc j'y suis allée, j'avais mon t-shirt très connu avec la grenouille Jeremiah's et Innocent Frog. Et à côté de moi, il y avait un journaliste qui avait exactement le même t-shirt que moi, mais le sien était beaucoup plus usé, avec des taches, et le mien était très neuf. Et Daniel Johnston était sur scène avec son papa en train de faire le soundcheck avec un grand piano Steinway. Et il nous voit arriver, et puis il dit à son père, « Hey, look, Dad, she's wearing my t-shirt. Regarde, papa, elle porte mon t-shirt. » Et moi, j'étais méga fan, et il me dit « Would you like to have a Coke with me backstage ?» Donc bah, moi, je réfléchis pas trop, enfin, je dis « Yes, ok ». Mais bon, en même temps, tu vois, je tremblais un peu, voilà, parce que c'était un peu, c'était mon idole, quoi. Je l'admirais. Donc voilà,
Tu l'admires toujours ?
Je l'admire toujours, ouais. Du coup, il nous invite backstage avec le journaliste qui est là. Et puis, il y avait aussi un photographe qui était là. Et donc, il invite tout le monde backstage. Et c'est là qu'il partage un coca avec moi. Et son père était là aussi. Donc, on commence à parler de choses et d'autres. Et voilà, enfin, je ne sais plus la question.
C'était la rencontre.
Voilà, la rencontre. C'était ça. C'était ça. Après, il y a d'autres choses à raconter aussi après le concert. Mais pourquoi on en est venu à s'écrire. C'est le jour après le concert, on s'était tous retrouvés dans une sorte de cantine, un restaurant. Et il y avait une grande tablée, j'étais assise à côté du père de Daniel, et Daniel était en diagonale. Et Daniel, en fait, discutait pas trop, il est assez réservé. Et subitement, il se lève et puis il dit « Hey Sandra, would you like to have a walk with me ?» Alors pareil, moi j'étais un peu étonnée, j'étais là, c'est à l'intérieur de moi, je me disais, c'est bien à moi que tu me parles, parce que je sais pas, je sais pas pourquoi il a eu un intérêt comme ça, mais donc bah, je lui dis ok, et son père nous dit, don't go too far, n'allez pas très loin. Donc là après, il m'emmène à l'extérieur, il me met un peu à l'écart, et puis il me sort un petit sticker avec, avec son adresse à Waller, avec des notes de musique et la clé de sol, c'était assez mignon. Et il me dit, voilà, on s'écrira, il faudra que tu m'écrives. Je dis, très bien, on s'écrira. À l'époque, je faisais des études d'anglais, donc je me suis dit, très bien, c'est l'occasion de pratiquer cette langue. Voilà, et puis après, tout le monde est sorti du restaurant. Et puis, il a fallu qu'il parte. Et il y avait un peu de la tristesse de part et d'autre, de la sienne et de la mienne, de se quitter, en fait. Ah ouais. Voilà.
Ok. Alors, peut-être, pour les auditeurs, il faudrait décrire les dessins, en fait, de qu'est-ce qu'on va voir à la médiathèque. Quel est son genre de dessin, quoi.
En fait, il y a, alors à la médiathèque, il y aura la cinquantaine de dessins que j'avais compilés, mais il y a aussi, j'ai eu des autorisations des personnes comme Don Goode qui a écrit un livre qui s'appelle Hi, How Are You, pour faire des reproductions agrandies des dessins qui montrent en fait l'évolution de son art à travers les années. Moi j'ai, enfin personnellement, il m'a envoyé des très vieux dessins, ou enfin c'est même des peintures, enfin c'est même une sorte de gravure en fait qui représente The Baby Jesus, qui je crois que ça date de 1978 ou 79 quand il était à Oak Glen Heart High School à l'époque. Et après, il y a des dessins où, en fait, il me représente suite à notre rencontre. Il y a plusieurs dessins qui me représentent au moment de la rencontre. Et puis aussi, à un moment donné, je suis allée le voir à Waller en l'an 2000, en septembre. Et donc, ça parle aussi de ce qu'on a un petit peu vécu aussi à ce moment-là. Voilà, et après, il a envoyé aussi des dessins qui n'avaient rien à voir forcément avec notre rencontre, mais par exemple, des dessins de Captain America, puisque c'est un méga fan des comics de Jack Kirby, notamment la première période, quand c'était Hitler contre le nazisme, contre les États-Unis, en gros. Après, on voit, il y a des dessins avec... des BD aussi, des petites comics sur les sorties de ses albums. Par exemple, Rejected Unknown, j'ai un petit comics qui représente ça. En gros.
Est-ce qu'il y a Jérémia, justement, la grenouille ?
Oui, en fait, à un moment donné, il y a un dessin qui me représente, justement, avec Jeremiah. Je porte le t-shirt et je porte aussi un revolver qui est braqué sur la tempe d'un âne. Ouais. Et parce qu'en fait, Daniel s'était représenté comme un âne. Et moi, je dis « It was beauty that killed the beast ». C'est la belle qui a tué la bête. Et l'âne, en fait, il répond, mais dans sa tête. Il ne répond pas vraiment, ouais. C'est une bulle. Il dit « Maybe it's right ». Peut-être que c'est vrai.
Ah ouais, ouais. Voilà. Alors, justement, Xavier, ton livre se termine par une passionnante analyse des dessins de Johnston avec les thématiques. Alors, bon, on ne va pas dire tout ce que tu dis dans ton livre, mais est-ce que tu peux résumer un peu ce qu'on retrouve dans les dessins de Johnston ?
Oui, par rapport à ce que vient de dire Sandra, elle a très bien évoqué. C'est vrai que chez Daniel Johnston, il y a vraiment toute une mythologie qui est créée autour de ses personnages, autour des figures qu'il invoque. J'en parle à plusieurs moments. C'est vrai qu'il y a d'un côté, il y a tout ce qui est figure de la femme, la figure paternelle, la religion, c'est des choses très importantes pour lui. Et puis après tout son imaginaire qui va développer et déployer avec justement la création de personnages. Donc la grenouille, on en a parlé. Ça peut être même Casper, le gentil fantôme. Les héros Marvel, chaque personnage, chaque héros, chaque figure va vraiment avoir ses propres caractéristiques, ses propres traits de caractère, et il va les convoquer à différents moments en fait de sa vie, à différents moments de son œuvre, pour exploiter une idée ou une autre, pour décrire quelque chose qu'il a vécu par exemple, c'est un très bon exemple l'histoire de Sandra avec cette âne, tout ça c'est typique d'Anne Johnston, quoi, vraiment de toujours transcrire sa vie réelle et puis de la mettre ou de la coucher sur papier en musique ou bien de la peindre, c'est assez saisissant, ouais.
Justement, c'est quand même par rapport au comics Space Dots, là c'était son dernier album si j'ai bien compris, il s'appelle Space Dots, qui est une espèce de bande originale en même temps du comics. Est-ce qu'il y aura des trucs en rapport avec ça, avec ces dernières sorties ?
Moi, personnellement, j'ai la BD Space Ducks, donc elle sera montrée lors de l'exposition. J'ai aussi le disque, on pourra le passer lors du vernissage des quelques titres, pourquoi pas ? Ouais, je pense.
Et de toute façon, là, c'est des trucs où on parlait aussi, la cohérence, en fait, finalement, entre les différentes figures, l'espèce de mythologie de Johnston, mais en fait c'est vraiment une espèce de tout cohérent entre les chansons, c'est la même symbolique au final qui regroupe les textes et la vie quotidienne et les textes et la musique et les dessins.
Bien sûr, ouais. Tout est vraiment lié en permanence. Il a une sorte de syntaxe commune pour tout ce qu'il crée et il travaille beaucoup sur la citation également, qu'il soit la citation musicale ou même picturale. Et on retrouve très souvent des extraits de chansons dans ses dessins, des extraits des évocations de ses dessins, de ses personnages dans ses chansons. C'est passionnant de traverser son univers. En ayant les codes, en sachant un peu qu'est-ce qui veut dire quoi, c'est assez évocateur et assez troublant et vraiment passionnant.
Ouais. Mais comme il y a des évolutions notables aussi en musique, est-ce qu'il y a aussi des évolutions au niveau du style graphique ou pas ? Ça, c'est un truc que j'ai pas tellement vu. Mais ça se voit.
Oui, aussi, ça se voit. Il dessine pas pareil maintenant que. Il a eu des périodes, on peut dire, cubistes, ouais. Des périodes où c'était plus la peinture, d'autres, c'était plus le style oblique. Des styles différents dans sa manière de dessiner. Il y a des fois où c'est beaucoup plus le style des comics, et puis d'autres, c'est. Je n'ai pas de. Ouais, enfin voilà, c'est y a plein de choses différentes, quoi.
C'est un peu comme la même façon, en fait, du, enfin le côté il crée la musique par rapport à son environnement, par rapport à ce qui l'entoure. Ça va un peu être la même chose avec le dessin, et il va dessiner selon selon s'il est à l'école, selon s'il est chez lui, selon s'il a de la peinture à disposition ou s'il a des feutres à disposition, ou ouais. Même chose pour le support, si c'est du papier, si c'est un bout de carton, si c'est une vieille lettre, une facture, enfin c'est en permanence, c'est toujours
Par exemple, il y a un petit détail qui est marrant. Il y a les lunettes d'une amie qu'il avait eue à un moment donné, qui s'appelle Cathy McCarthy, qui est une chanteuse et qui a d'ailleurs fait un album que de reprises de Daniel Johnston, qui s'appelle Dead Dogs Highball. Et dans la mythologie des dessins, on voit les lunettes de Cathy McCarthy qu'on peut retrouver dans des dessins ailleurs. Ou par exemple, à un moment donné, ils se sont rencontrés avec Mark Linkous aussi de Sparkle Horse. Oui. Et il peut parler de Mark Linkous, enfin de Sparkle Horse, dans des dessins. Et puis Captain America, des fois, il fait un lien aussi avec son propre père, qui était pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, en fait, qui s'est battu en Chine contre. Enfin, il s'est battu en Chine et a été fait prisonnier. Et il pilotait donc chez les Flying Tigers à l'époque. Okay. Voilà. Et c'est un peu un héros. Hein. Son père, il le voit un peu comme un héros. Et donc, il a été baigné justement dans tout ce qui est. Tous les avions, les maquettes, quand il était petit. Son papa et lui, certainement, il est monté ensemble ou des choses, des choses comme ça. Et donc, ça, dans ses dessins, on retrouve des bombardiers. Enfin, moi, j'y connais rien, mais tel type d'avion, tel type d'avion, tel type de bateau, de sous-marin. Enfin, voilà. Et tout ça, et tout est lié. Après, il y a un petit cube avec ABC qui symbolise l'enfance, qu'on va retrouver dans plusieurs dessins. Casper, qu'on retrouve souvent. Ouais.
Voilà. Est-ce que dans l'expo, il y aura aussi une grille de lecture, enfin, il y aura un endroit comme pour vraiment préciser la symbolique.
Tout à fait.
Une pierre de rosette, on va dire.
Oui, c'est prévu. Ça, il existe. C'est Daniel lui-même qui l'avait fait. Symbolical Visions, les visions symboliques de Daniel Johnston, puisque lui-même, peut-être qu'il avait besoin de s'y retrouver, je ne sais pas. Non, je rigole. Mais il y aura quelque chose dans ce sens-là.
Ouais, j'ai appris dans le livre que, en fait, actuellement, Daniel Johnston vit de ses dessins et non pas de la musique. C'est étonnant.
C'est étonnant et en même temps c'est assez révélateur aussi de plein de choses, mais c'est aussi parce que le marché de l'art se porte mieux que le marché de la musique, et qui plus est de la musique indé
et qui plus est de ce qui peut être assimilé à l'art brut. Oui.
C'est ça. Alors sachant, juste pour rebondir sur l'art brut, on en parlera après.
Ouais.
Ok. Bon. Pas trop vite.
Oui, pas trop vite. Je propose qu'on écoute un morceau. Alors, tu parlais de peut-être Cathy.
Ouais, Cathy McCarthy. Eh ben, c'est bien. On va écouter Where It Choose de l'album Dead Dogs Highball de Cathy McCarthy.
Donc, il y a une reprise.
Une reprise de Daniel Johnston qui s'appelle Where It Choose. Tout l'album, c'est que des reprises en fait.
Ok.
I took my lucky break and I broke it in two. Put on my worried shoes, my worried shoes. They walk a million miles and they never wear out. My worried shoes, my worried shoes.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et nous parlons aujourd'hui de Daniel Johnston avec Sandra Regnou, Xavier Lelièvre et notre ami Grégoire. Alors, moi j'ai quand même une interrogation. C'est par rapport à la mauvaise qualité d'enregistrement. Alors là, on vient d'écouter justement une reprise qui est tout à fait soignée, tout ça. Mauvaise qualité d'enregistrement de Daniel Johnston, interprétation parfois approximative, hein, c'est pas très juste, voix nasillarde, etc., etc. Comment expliquez-vous l'engouement pour Daniel Johnston? Pourquoi est-il culte?
Allez, j'y vais. Moi, en tout cas, je pense que ça rejoint tout ce que j'ai pu dire tout à l'heure sur le côté, sur la spontanéité, sur l'urgence du message, sur vraiment l'authenticité de l'objet. C'est un tout, mais c'est vrai qu'il y a vraiment la création de ce mythe avec en plus le côté maladie, donc qui crée aussi une certaine empathie pour le personnage. Et puis, tout simplement, c'est vraiment quelque chose de très brut dans le résultat sonore, en tout cas quand on parle de la musique, très brut, sans artifice, et qui, je pense, peut directement toucher de la façon la plus naturelle qui soit. J'en parle un petit peu aussi dans mon ouvrage. Je pense qu'il y a aussi tout ce côté diamant brut, donc façonnage ensuite. On vient de l'entendre là avec Cathy McCarthy. Donc,
c'est super cette notion-là que tu développes.
J'en suis ravi, merci. c'est vraiment... Daniel Johnston, lui, il livre un objet dans sa forme vraiment brute. Et puis ensuite, chacun peut refaçonner la chanson, peut refaçonner un album, peut refaçonner un peu ce qu'il veut. Comme toute façon, de base, les codes de la pop sont là, sont carrément respectés. Et c'est vrai que l'analogie avec les Beatles, elle est presque indispensable, parce que en permanence, on entend du Beatles épuré, quoi. Mmh. C'est de l'harmonie, c'est une suite d'accords très simple mais qui fonctionne parfaitement. Et puis des refrains, c'est de la pop, quoi, tout simplement. Mmh.
Tu peux nous préciser les thèmes, parce que je crois qu'il y a trois grands thèmes dans ces chansons.
Oui. Enfin, c'est en tout cas moi la façon dont je l'ai évoqué. Mais d'un côté, on a la femme. Ça, c'est peut-être 90% de son travail. Il y a la religion, qui aussi, qui selon les périodes, il s'en éloigne plus ou moins. Ça dépend un peu de ce qu'il traverse dans sa vie. Mais moi, en l'occurrence, 79-86, sur la période à laquelle je me suis intéressé, c'est très important. Et puis, il y a tout le versant mélancolie, mal de l'être, qui est inhérent de toute façon à sa maladie, mais et à beaucoup d'artistes pop en général.
Alors justement, je ne comprends rien à l'anglais, donc je ne sais pas du tout. Est-ce que ces textes sont naïfs, ou est-ce qu'il y a une véritable qualité littéraire?
Moi, je trouve qu'ils sont très simples et justement, ils touchent facilement la personne qui les écoute vraiment. Et comme, personnellement, j'ai tellement, tellement écouté du Daniel Johnston que j'avais l'impression. Enfin, on peut d'ailleurs un petit peu en avoir peut-être un peu peur, parce que c'est un personnage qui est sans filtre. Donc, les gens, ils portent tous un masque. Dans la vie de tous les jours. Alors, est-ce que c'est ça, sa maladie? C'est ça, c'est une personne sans filtre, ça fait peur? Est-ce que c'est vraiment ça? En fait, on peut se poser la question. Et moi, dans ces textes, j'étais tellement touchée parce que ça me parlait, en fait. Et même si c'est des situations que je n'avais pas vécues, je me suis dit, c'est ça la vie, c'est du beau, quoi. Et ça me touchait. J'ai tellement écouté Daniel que j'ai l'impression qu'après, ça me traversait les pores, en fait, qu'il m'habitait. J'étais totalement, complètement habitée par ses chansons.
Tu es possédée.
Ouais, c'est ça, j'étais possédée à l'époque, ouais. Et ce que je trouvais beau, c'était la simplicité de ses textes et qu'on était facilement touché par sa poésie, quoi. Voilà.
C'est ça. C'est des textes tellement tellement naïfs que du coup ils en sont extrêmement extrêmement poétiques. C'est
D'accord.
C'est vraiment troublant, ouais.
Et puis après, il y a aussi la mélodie. Il trouvait quand bien même sûr. Des mélodies
ah, oui,
qui étaient
ouais.
complètement... enfin,
ça accroche.
Ouais, très accrocheuse.
Alors, moi, ma question, ça va être un peu plus problématique, mais ça m'a vachement intéressé dans ton livre. Il y a un point intéressant, c'est Danny Johnson qui est quand même... Finalement, assez loin des clichés de l'artiste brut. On en arrive à la notion d'arbre. Justement, c'est loin de ces clichés-là de l'artiste brut reclus, solitaire, qui voudrait rester dans l'ombre et tout ça. Lui, depuis le début, sa volonté, c'était d'être célèbre. Il est passé à la télé, à MTV, il était content. On voit dans le documentaire de Devil and Daniel Johnston, on le voit super content de passer à la télé, d'être entouré plein de gens. Et depuis le début, voilà, il se pose pas spécialement de questions par rapport à ça, la place de la célébrité, tout ça. Est-ce que tu peux développer un peu cet aspect-là?
Bah c'est en tout cas moi ce que je trouve qui le rend encore plus authentique et encore plus vrai, c'est que plutôt que se cacher derrière voilà une pseudo-position d'artiste un peu maudit, un peu renfermé comme tu le disais, au contraire il prouve en fait que célébrité, que gloire et puis qualité artistique sont pas forcément incompatibles. Alors du coup lui en son cas c'est toujours très contradictoire parce que d'un côté, il y a cette envie-là, donc du coup, pour être célèbre, il faut enregistrer très vite, il faut vraiment accélérer le processus. Mais du coup, en accélérant le processus, bah, ça veut dire que l'objet final, il correspond pas aux normes radiophoniques, par exemple, ou des grandes maisons de disques. Donc c'est toujours très contradictoire, et c'est vrai qu'il a pas toujours pu avancer de la meilleure façon, en tout cas de la façon qu'il aurait sans doute voulu de base. Donc c'est compliqué à c'est compliqué comme ça, d'en discuter surtout si rapidement. Mais en tout cas, je pense que oui, c'est vraiment quelque chose qui a fait sa force, ce côté revendication revendication de la célébrité et qui a pas du tout sali son œuvre, au contraire, qui, moi, je trouve, la rend encore plus authentique, encore plus vraie et sans filtre, comme tu disais.
Et pour continuer sur cette espèce de catégorie bizarre, paradoxale, art brut. Il y a un sens, tu vois, il y a aussi ce que théorise Dubuffet dans le manifeste La suite sur culture, je ne sais pas si tu l'avais lu. Il y a cette espèce d'individualisme quand même, ce côté je fais mon chemin, je vais aller avec cet univers clos, cohérent, mais ce côté vraiment je trace ma route et je m'en fous de ce qui se passe autour de moi, je fais mon truc. Est-ce que tu es d'accord ou pas? Je ne sais pas comment dire ça.
Par rapport à l'œuvre de Johnston?
Ouais.
Moi, je pense qu'au contraire, il a tout fait sauf tracer sa route tout seul. Son entourage est tellement important, notamment surtout à cette époque-là, et puis même encore aujourd'hui. On voit son ancrage notamment dans la scène d'Austin au début des années 80. Et puis, énormément de collaborations. Arrête-moi si.
Non, mais c'est ça.
Mais je pense que vraiment, c'est très important pour lui de travailler avec d'autres artistes, de partager son art et qu'il n'est surtout pas dans une démarche de solitaire.
Oui, tout de suite, même au départ, il avait été démarché le Austin Chronicle, qui était un journal là-bas à Austin, où il y a une personne qui, je crois, qui s'appelait Louis Black, qui faisait des chroniques. Mais Daniel, lui, tout ce qu'il voulait, c'est qu'on écoute ses chansons, peu importe. Donc en fait, il a été frappé à la porte de ce chroniqueur, et le chroniqueur entendait que quelqu'un frappait, donc il ouvre et il voit Daniel Johnston, donc il lui remet ses cassettes et il lui dit il faut que tu l'écoutes, ce serait bien que tu l'écoutes et tout. Et puis il regarde, il dit ok, j'écrirai une chronique. Et puis Daniel, il lui répond, mais c'est pas une chronique que je demande, c'est que tu l'écoutes. Voilà. Et ça, pour moi, ça résume bien le personnage, parce que lui, tout ce qu'il a envie, tout ce qu'il avait envie, c'est de faire sa musique. Il fallait que ça sorte, quoi. De toute façon, c'était puis ses dessins ensuite, mais voilà. Donc ça résume bien, en fait, pour moi, les tripes de Daniel Johnston, de répondre. Mais je demande pas une chronique, je demande à ce que tu l'écoutes. Voilà.
Alors. Au-delà de l'art brut, il y a un terme qu'on utilise souvent, c'est lofi, et tu en parles abondamment dans ton bouquin, et pour dire que tu récuses en fait le terme de lofi pour Johnston, dans la mesure où il n'y a pas une revendication pour lui de s'éloigner des modèles de production conventionnels de l'industrie du disque, on vient de l'évoquer quand même. Mais quand même, il y a il y a une intentionnalité, il y a un état d'esprit. C'est pas tout le monde ne s'enregistre pas en train de chanter au piano avec un magnétophone pourri. Si tu veux, il y en a qui veulent devenir célèbres, mais qui échafaudent des plans. Je vais voir un producteur et tout ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un état d'esprit.
Ouais. Ça rejoint un peu tout le côté contradictoire que j'évoquais tout à l'heure. C'est d'un côté, il y a ce côté, il veut absolument devenir une vedette, il veut accéder aux grands studios parce que son ambition et son obsession, c'est Abbey Road, c'est les Beatles, ouais. C'est ce résultat-là. Et du coup, pour y arriver, il accélère le truc et donc il pense qu'en distribuant sa musique comme ça au Made, ça va l'aider à arriver dans ses studios. Seulement, contrairement à la démarche Lofi, lui, il a vraiment pas une volonté de créer une rupture avec les studios et avec toutes les normes de studio, tout le caractère un peu trop lisse, un peu trop sophistiqué de la production de son époque et même encore actuelle. Et ce qu'il veut, lui, c'est surtout pas s'en défaire. Au contraire, il veut absolument rejoindre ces grands studios et cette grande sophistication à laquelle il aura d'ailleurs accès plus tard dans ses albums dès qu'il rejoindra les studios. Ouais. Donc, contrairement à un artiste lofi qui, lui, revendique cette non-appartenance à un studio et ce son sale pour justement se dégager de quelque chose de trop propre. Lui, Daniel Johnson, il crée de la musique sale, mais pour justement rejoindre une musique qui soit très plus propre. Ouais,
la contradiction, c'est que pour autant, il la distribue.
Il la distribue, ouais.
C'est ça. On pourrait penser, non, c'est pourri.
C'est juste une démo, j'attendrai de la même sorte.
C'est ça, mais c'est pareil, c'est contradictoire. Ouais. En voulant sauter un peu des étapes de production... d'un côté, il se retrouve un petit peu comme si c'était un peu contestataire, alors que pas du tout. C'est juste que il espère vraiment que ça va l'aider à taper dans l'œil de grands producteurs, comme ça a pu le faire avec Kim Follet en 85. Donc ça a marché.
Et puis au-delà de ça, je crois que c'est les albums. Il y a une pile devant moi là. Les albums, ce sont les enregistrements, la plupart les plus connus.
La plupart, oui.
Sur les enregistrements originaux avec son magnétophone.
Là-dedans, il y a un peu de tout. Ouais. Mais
ça permet de la plus connue. En fait, les albums qu'on connaît le plus, How Are You, tout ça, ouais. C'est quand même vraiment le truc. Enregistré à la maison.
C'est ça, tout à fait, sur cassette. Parce que picturalement, c'est quelque chose qu'on reconnaît beaucoup parce que c'est aussi, le dessin avec la grenouille. Voilà. Ouais. Après, en termes de titres, je ne suis pas sûr que ce soit les titres les plus connus sur cet album-là.
Là, on a parlé de la musique, mais par rapport au dessin, l'art brut, etc., en fait, il reste assez humble par rapport à sa manière de dessiner. Daniel lui-même dit que ce n'est pas professionnel, qu'il aimerait bien dessiner vraiment comme les dessinateurs des studios, des comics. Ouais. Donc il a encore beaucoup de chemin à faire, etc. Mais quand bien même, il s'en fout, il le fait. Ouais, il fait ce qu'il a à faire et puis après, on verra. Et d'ailleurs, il a finalement réussi à sortir Space Dogs, justement, sa BD. Il n'avait jamais sorti de BD, mais alors c'est assez particulier. Il n'y a pas vraiment d'histoire dans Space Dogs. C'est un petit peu... ça va dans tous les sens, mais il a réussi par un autre moyen, détourné.
Je te dirais que la question de l'art brut est réglée. Alors, moi, c'est mon interprétation, moi. Dès le moment où il vend ses dessins, il en vit, c'est plus de l'art brut, quoi. Il est professionnel.
Dès le moment où il les vend, et de toute façon, à partir du moment où il a eu une formation académique très jeune.
Ça, j'ai appris.
C'est pour ça qu'on en parle souvent, parce que ça concourt aussi au côté un peu romantique, art brut, artiste un peu maudit, mais en fait, il a étudié le dessin très, très jeune, à la fin des années 70, et ce qui, du coup, le place en dehors des critères de l'art brut.
Parce que même avant d'aller à l'université pour étudier plus sérieusement les dessins, quand il était petit, il dessinait déjà, il avait déjà un talent pour ça.
Oui, une vraie pratique. Alors, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est la distance qu'il peut avoir avec sa propre création, on voit qu'il joue. Il y a notamment un album où il a sa mère qui l'engueule, donc il envoie le magnétophone et il joue Grievance, donc son morceau un peu phare, par-dessus sa mère qui gueule. Et je me dis, là, il y a quand même, il y a une réflexion là-dessus, il le place, c'est super bien mixé, on entend très bien la voix de la...
Une grande réflexion, et d'ailleurs, et c'est quelqu'un de très manipulateur aussi, Daniel, il arrive toujours assez fin.
C'est ça que je voulais en dire.
Il n'est pas si, entre guillemets, naïf que ça, en fait. Et par exemple, des fois, sa mère, il faisait exprès de l'embêter, entre guillemets, pour pouvoir avoir de la matière à se servir après pour pouvoir enregistrer, parce qu'il trouvait ça excellent, je pense. Ouais.
Et il en a joué de ça?
Je pense qu'il en a joué, mais en même temps, véritablement, il y a eu, je pense, dû y avoir des vraies engueulades la part de sa mère. Et je pense que ça l'affectait quand même. Mais il s'en servait pour ses chansons, parce qu'il estimait certainement que c'était bien.
Ouais. Bon, je vous propose d'écouter un morceau. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter?
De choisir Xavier.
Eh bien, Life in Vain, qui est sorti sur l'album Fun en 1994, donc qui est le premier album de Daniel Johnston à être sorti sur un gros label, donc chez Arista, c'est ça ? Atlantic, pardon. Ça a été une expérience un peu courte. Il a fait qu'un seul album chez Atlantic, alors que plusieurs étaient prévus, mais voilà, ça serait trop long d'en parler.
On écoute alors.
Be free of hope, and I'm at the end of my rope. It's so tough just to be alive when I feel like the living dead. I'm giving it up so plain, I'm living my life in vain. And where am I going to? I gotta really try so hard to get by. And where am I going to? Up or down, and there ain't any love left around. Everybody wearing a frown, waiting for Santa to come to town. You're giving it up so plain, you're living your lives in vain. And where are you going to? You gotta really try so hard to get by. And where are you going to? Your TV and try to make sense out of that. If we were all in the movie, maybe we wouldn't be so bored. We're giving it up so plain, we're living our lives in vain. And where are we going to? You gotta really try so hard to get by.
A corsage of the world. I was in love with the girl I would the violence foresee. All that it ought to be, blessed by generosity, sure to put
your heart in a whirl. Stop to pick up a dollar bill as the blood drips at the mill. Have you got fried chicken? You ate it up so fast, laid down its life just for you. Now you have nothing to do, just a television tube. Though for goodness sake and the love you make, skipping stones at the lake, you've got a half-baked idea to think we'd be so glad to see ya. Lost in your lonely room, how they grow up and bloom, young girls in the magazine, how they took part in your doom. Baby, step out of the womb. Hunger and lust for life, she was like any housewife, darning the socks with concern. Glad you ever were born, just to get up in the morn. Though all the while you were surrounded by amateurs, grieving in love so insane, thinking your hope was refrain and the emotional pain. Nothing to do but cry as you dry your eyes, watching the soap opera die, longing for the freedom of success, when we're all just a temporary guest. Living in such a mess, I'll bring you back again, just like you used to have been. How could you really win, pledging your existence to sin? We'll delight in the twilight, anything to make it right, when there's nothing left but nothing but an empty song. Why did it have to go wrong? How it all works out, something about it so, thinking that love is a crime. You were a friend of mine, standing there at mistime. You're gonna make it, Joe, love is sure to follow, happy to be that way. Tomorrow is a brand new day. What do you have to say?
Next time I come, I promise I'll do a better show. Thanks a lot.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, 89.4 en région parisienne, radio-libertaire.net partout ailleurs. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres et nous parlons aujourd'hui de Daniel Johnston. Alors on a enchaîné deux titres. Quel est celui qu'on vient d'écouter ?
Alors moi je vais parler d'un titre, donc il s'agit d'une chanson qui s'appelle Nothing, qui est parue dans le disque du live de Daniel Johnston à Berlin. Mmh. C'est la dernière chanson en fait de son concert et qui est d'une beauté absolument merveilleuse, incomparable, mais aussi d'une tristesse incomparable également. Et voilà, c'est très beau.
Ah bah oui. Xavier, peut-être on va parler de ton livre, Sorry Entertainer. Oh là, j'ai presque bien dit. La production artistique de Daniel Johnston de 1979 à 86. Dans quel contexte as-tu écrit cet ouvrage? J'ai l'impression que c'est un mémoire.
C'en était un à l'origine, un mémoire retravaillé et tout ce qu'on veut. Ouais. Mais oui, à l'origine, c'était un travail de recherche à l'université et que j'ai donc peaufiné et soumis à un éditeur après mes études. Ouais.
Et justement, c'est très très naïf comme question, mais il y a quand même eu beaucoup de documentation, de documentaires, des livres sur Daniel Johnston. Et quelle est la particularité vraiment de ce travail-là? Qu'est-ce qu'il distingue? Pourquoi tu t'es dit celui-là du coup, oui, c'est vraiment une chose de musicologique aussi. C'est parce que c'est.
Tu veux dire qu'il y a pas que il y aurait eu beaucoup de livres sur Daniel Johnston.
Il y a quand même pas mal de choses, même si c'est pas en français justement. D'accord.
Ah oui, oui. Voilà. Bah en fait, c'est aussi ça le prédicat de départ, c'est que en France, il me semble qu'il y a aucun livre sur Daniel Johnston. Les seuls qui peuvent exister sont des livres d'art, donc juste avec seulement des dessins. Ah. Et donc c'est surtout voilà pour pallier à ce petit manque-là. D'abord, bon, égoïstement, c'était parce que le sujet m'intéressait, bien sûr, naturellement. Mais voilà, c'est aussi ce souhait de mettre en avant un artiste qui est presque, qui est carrément culte aux États-Unis et qui, en France, est presque inconnu. Donc voilà, c'était de là à dire que c'était militant, peut-être pas quand même, mais.
Yeah, tu peux aussi. Hein.
Quand même, tu peux aussi.
Il
hein.
n'y a pas de problème avec ça.
Oui, si. Et tu as rencontré. Est-ce que tu as. Parce qu'il y a. À ma connaissance, tu n'as pas rencontré Daniel Johnston pour l'écriture de ce livre. Est-ce que tu l'as rencontré ensuite?
Non. C'est mon grand regret.
Mais du coup, ça va. Ah non, il ne va pas venir. Voilà.
Non, il ne va pas venir, à moins que Sandra m'ait fait une surprise.
Je ne pense pas qu'il viendra. J'aimerais bien secrètement qu'il vienne, mais je ne pense pas. Après, s'il vient, tant mieux. Mais sinon, Xavier et moi, on ira le voir à Waller.
Complètement.
Ensemble. Ah, d'accord. Moi, je voulais savoir, parce que c'est bizarre, ça. Pourquoi t'être concentré sur la période 79-86
Déjà, tout simplement parce que se concentrer sur l'intégralité de ce qu'il a fait, je pense que moi, ça m'aurait...
C'est trop.
On s'évade trop. Il faut recentrer un petit peu le sujet, un peu le centre de la recherche. Sachant que, à mon sens, c'est peut-être la période d'un côté la plus représentative de ce qu'il a pu faire et de ce pourquoi il peut être reconnu et aujourd'hui. Et puis, je pense que c'est la période où sa créativité était vraiment maximum. D'abord, sans doute dû à son jeune âge, à tout ce côté un peu naïf et également dû au fait que voilà, il a évolué dans un contexte, dans un milieu aussi très riche musicalement et artistiquement, notamment à Austin dans les années 80. Et puis, mine de rien aussi, il y a sa maladie et puis ses traitements souvent très inadaptés qu'il a dû subir au fil des ans, qui a aussi affecté quelque chose chez lui, pas tout bien sûr, mais je pense que c'est vraiment des superbes années quoi. Alors j'écoute aussi énormément ce qu'il a fait derrière, mais d'ailleurs j'adorerais travailler là-dessus après si j'avais du temps plus précisément. Mais en tout cas ouais, de base il fallait que je me concentre de toute façon sur une période. Et puis dernièrement, juste pour une question de recul aussi, c'est peut-être plus simple de se concentrer sur une période écoulée plutôt que quelque chose comme il continue de créer aujourd'hui. C'était plus compliqué pour moi de faire la part des choses aussi et de d'organiser mon travail. Donc voilà, d'où le 79-86.
Okay. Moi, j'ai une grande question qui peut se diviser en deux, en fait. Comment tu as appréhendé les musiques de Daniel Johnston en tant que musicologue? Est-ce que tu as dû créer ta propre grille de lecture? Ça m'a toujours fasciné, en fait, les musicologues qui étudient la pop. C'est vrai, je parle en connaissance de cause, c'est super compliqué, parce qu'il n'y a pas tellement de méthodologie sur ces trucs-là. Et la deuxième question, du coup, est-ce que tu as dû te justifier auprès d'autres musicologues dans le cadre de tes études? Parce que je parle en connaissance de cause, il y a une espèce de grand mépris de classe, vraiment... grand mépris au niveau de... Dès que ça dépasse le début du XXe siècle, il y a beaucoup de réticence en France, en tout cas.
Ouais, alors, si heureusement, au sein de l'université, c'est quelque chose quand même qui commence à pas mal évoluer. Notamment la recherche sur les musiques, ce qu'on appelle les musiques actuelles. Donc, Il y a de plus en plus de recherches. Auparavant, c'était vraiment la sociologie qui s'emparait de ces questions-là. Ouais. Et depuis quelques années, voire décennies, enfin en tout cas quelques années, la musicologie aussi reprend le dessus sur ces études-là. Mmh. Donc c'est vrai qu'il n'y a pas encore de méthodologie. Et d'ailleurs, je pense que ça sent quand on lit mon livre, il y a une approche bien plus historique que, ouais. que vraiment purement celle d'un musicologue. Mon envie, c'était pas de dresser des analyses sans fin de musique, parce que je pense que l'objet là, c'était pas le propos, et que ça n'avait pas forcément de sens de décortiquer autant une chanson de Dennis Johnson, alors que ce qui compte dans cette chanson, c'était plutôt une voilà quelque chose qui est de l'ordre de l'éclat et du spontané, plutôt que rendre trop universitaire son travail. C'était pas en tout cas la démarche que j'avais envie d'avoir.
Eh bien, écoutons, on va aller, comme on est en fin d'émission, on écoute les morceaux deux par deux maintenant. Qu'est-ce que vous nous proposez?
Écoutez, moi je peux proposer Honey, I Sure Miss You, qui est une chanson que j'aime beaucoup de l'album Artistic Vice, qui, je crois, doit être peut-être la première chanson que j'ai entendue de Dennis Johnston. Ah.
Sandra?
Eh ben, on va continuer avec la chanson qui s'appelle Story of an Artist, emblématique Daniel.
It's like when you go to read your own poetry, you get all choked up. up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. The artist walks alone, someone says behind his back. He's got his gall to call himself that. He doesn't even know where he's at. The artist walks among the flowers, appreciating the sun. He does this all his waking hours, but is it really so wrong? They sit in front of their TVs, saying, hey, this is fun. And they laugh at the artist, saying he doesn't know how to have fun. The best things in life are truly free. Singing birds and laughing bees. You got me wrong, says he. The sun don't shine in your TV. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others aren't so bold. Everyone and friends and family saying, hey, get a job. Why do you only do that only? Why are you so odd? We don't really like what you do. We don't think anyone ever will. It's a problem that you have, and this problem's made you ill. Listen up and I'll tell a story about an artist growing old. Some would try for fame and glory, others just like to watch the world.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, l'émission Les Oreilles Libres consacrée aujourd'hui à Daniel Johnston et l'exposition qui aura lieu à la médiathèque musicale de Paris du 27 septembre au 8 novembre. Alors Sandra, tu es l'initiatrice, je crois, de cette exposition. D'abord, je voudrais savoir, Tu es en contact avec Daniel Johnston. Comment va-t-il, tout simplement? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment?
Alors, j'ai surtout écrit à son frère il y a peu de temps pour voir si... Enfin, pour avoir des nouvelles de Daniel. Donc, Daniel, il ne fait plus trop de concerts depuis l'an dernier, où c'était soi-disant ses dernières tournées, fin 2017. Et il se fait un peu vieux. Enfin, il a 57 ans, mais bon, vu son passé, il n'a pas forcément la super pêche, on va dire ça comme ça. S'il vient à l'exposition, s'il écoute Radio Libertaire en français et qu'il arrive à déchiffrer le français avec plaisir, hein, s'il veut venir, voilà.
Ouais, il n'est pas prévu qu'il vienne.
Non, je pense pas, non. J'aimerais bien.
Ah ouais, et qu'est-ce qu'il en pense? Il est au courant de l'exposition?
Oui, Dick Johnston, le frère de Daniel, donc, a fait de la publicité sur le Facebook de...
Ah ouais.
De Daniel, ils sont au courant.
Ouais, ouais, d'accord.
C'est pas la première fois que j'organise une exposition de dessins de Daniel. Donc à chaque fois, je leur en parle pour demander l'autorisation.
Oui, tout simplement. Ouais. Et est-ce que tu peux nous détailler alors le programme des manifestations liées à cette exposition, vernissage, concerts et conférences, j'imagine, Xavier.
Donc le jeudi 27 septembre, il y aura le vernissage de l'exposition. Il y aura Xavier Lelièvre qui sera là pour parler du livre aux connaisseurs ou à ceux qui connaissent pas du tout. Qui viendront à l'expo. Il y aura aussi des projections de deux petits films faits par un ami qui faisait des films Super 8 à l'époque, qui s'appelle Patrick Volve. Donc c'est des petites animations très rigolotes. Il y aura aussi la projection du film de Gabriel Sunday, qui est un petit film qui dure une vingtaine de minutes, où on voit en fait l'ancien Daniel, le Daniel actuel, on va dire, et le Daniel jeune, qui s'interpellent à chaque fois qu'ils parlent entre eux. Il y aura donc forcément les dessins, il y aura une DJ qui sera présente aussi, qui va passer de la super musique, voilà, forcément du Daniel, mais pas que. Ensuite, donc ça c'est le vernissage. Il y aura ensuite tout le mois d'octobre des concerts et le dernier concert le 8 novembre. Donc, le premier concert c'est le jeudi 4 octobre à 19h30. Il y aura Sylvain Vanneau qui est un auteur-compositeur donc français aux multiples influences telles que Neil Young, Bob Dylan, les musiques médiévales. Il nous fera l'honneur de sa présence. L'idée à chaque fois c'était de rendre hommage à Daniel en reprenant un ou deux titres de Daniel à travers le filtre de l'artiste et ensuite que l'artiste propose son propre répertoire. Il y aura aussi Monte Verita. Donc ça c'est un univers entre le post-punk et les chansons contestataires.
Pas de Jean-Louis Coste alors?
Non, Jean-Louis Coste a été annulé, donc est remplacé par Sylvain Vanneau. Donc il a annulé sa présence. Mmh. Donc voilà. Donc c'est bien d'en parler comme ça, tout le monde est au courant.
Voilà.
En tout cas, les auditeurs de Radio Libertaire. Le samedi 13 octobre, ce sera suivi par un concert de David Fenech, qui est un musicien en marge du rock, du jazz et des musiques improvisées.
Ah, très excellent. Ouais.
Voilà. Ouais. Et donc ce sera très intéressant. Et ce sera suivi de Françoise Breu, qui était elle était apparue aux côtés de Dominica à l'époque. Mmh. Et elle mène toujours une carrière impeccable entre la chanson et le dessin. Elle dessine aussi, donc c'est parfait. Et surtout, ce qui est bien, c'est qu'elle avait un groupe quand elle était jeune. Elle m'avait dit qu'il s'appelait The Female Squad. Et elle reprenait des chansons de Daniel Johnston.
Ah,
donc
c'est
une fan aussi. Ensuite, le jeudi 25 octobre, on aura le plaisir d'accueillir Charles Zalewski, qui est un auteur de bande dessinée, qui est musicien et compositeur fondateur du label et maison d'édition Pantipop. Donc, il fait une musique faite maison sous le nom Edam Edam. À mon avis, ce sera assez punk comme proposition. Et il sera avec un ami et collaborateur qui s'appelle Sean Drury. Et donc, ils vont proposer un set de réarrangement de la musique de Daniel. Et ils vont piocher dans toutes les périodes de l'œuvre de Daniel. Et il y aura ensuite, après, Kim Gianni, en fait, qui est un chanteur français anglophone et qui commence dans les années 90 à enregistrer ses chansons dans un registre que l'on nomme à l'époque le Lofi. Et il a déjà d'ailleurs été musicien sur scène avec Daniel Johnston à la batterie et à la guitare en 2012. Donc, d'accord, ils ont déjà joué ensemble. Et enfin, le jeudi 8 novembre, il y aura Half Asleep qui propose un songwriting épuré et menaçant qui est nourri par les grands songwriters de l'atemporel Nico, Robert Wyatt, Scott Walker. C'est une femme qui s'appelle Valérie Leclerc, qui est d'origine belge. Voilà, donc il y aura des atmosphères particulières à elle, avec elle a une voix très grave, très belle. Donc, voilà. Et puis il y aura aussi une amie à elle, d'ailleurs, qui s'appelle Delphine Dora, qui elle fait plein de choses. Elle est pianiste, vocaliste, elle improvise, elle compose et elle est fondatrice d'un label qui s'appelle Wild Silence.
Excellent label.
Voilà, merci de le dire. Et elle a publié en toute discrétion depuis 2005 plein d'enregistrements. Voilà, et c'est basé aussi sur une composition spontanée de la composition. Et elle est nourrie de nombreuses approches. Elle met en voix et en musique des textes et des poèmes de Kathleen Raine, Walt Whitman, Sylvia Plath. Et j'en passais des meilleurs.
Alors, qu'est-ce qui a présidé à ton choix de ces artistes-là ?
Ce sont des artistes que j'ai beaucoup écoutés, en fait, que j'ai beaucoup aimés. Donc, voilà. Et après, il y a aussi des personnes que je connaissais moins, que j'avais envie de faire découvrir aussi. Et en même temps, moi, les découvrir mieux. Parce qu'ils ont un lien avec Daniel Johnston. Et rien que ça suffit.
Ah bah ouais, voilà. D'accord. Alors, il y a aussi dans le livre de Xavier, je ne connaissais pas bien ce film-là, The Devil and Daniel Johnston, est sorti en 2010, et pourquoi ne pas le montrer
Il
y a une gêne ou quoi?
Non, c'est que il y a des droits. Enfin, moi, j'y connais pas forcément grand-chose, mais je pense qu'il y a de l'argent derrière l'argent que je n'ai pas, puisque de toute façon, tout ça, c'est une exposition gratuite. Ouais. Donc, il n'y a pas de logique marchande du tout. Et c'est juste pour l'amour et l'hommage à un artiste d'ailleurs vivant. Donc, voilà, une légende de vivante.
Ouais, donc il n'y avait pas d'argent pour payer les droits.
Pas d'argent. Et puis de toute façon, la médiathèque musicale de Paris n'a pas forcément un gros budget non plus. Mais... voilà.
Moi, alors peut-être pour conclure, moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans Daniel Johnston au point que vous consacriez à son œuvre énormément de temps quand même et d'énergie. Et en quoi est-ce important? Et qu'est-ce que vous pouvez dire afin d'inciter nos auditeurs à s'y intéresser?
Wow. Ah. C'est aussi dur que de sélectionner 8 titres seulement pour cette émission.
Pardon. Hein, mais...
Ce qui nous touche dans Daniel Johnston, Daniel Johnston, et puis tout ce qu'il représente, tout ce qu'on a balayé là depuis une heure. Vraiment une sensibilité, une franchise, une créativité vraiment hors norme, et puis voilà, il y a quelque chose de l'ordre de... Enfin, c'est un artiste, et puis c'est une personne envers qui on a beaucoup d'affection et qui, voilà, qui nous force à être affectueux en fait envers lui. Enfin, c'est impossible de... Ouais. C'est impossible de, voilà, de se dire c'est un imposteur, de se dire que c'est pas quelqu'un de bien. C'est très dur de mettre des mots là-dessus. Enfin, je ne sais pas si tu arriverais mieux que moi, mais c'est dur.
Il y a aussi l'idée de son importance, parce qu'il y a plein de gens qui l'ont repris. Il y a l'histoire de Kurt
Cobain. Bien sûr, toute la figure culte qu'il a.
Peut-être que c'est une question de sensibilité, comme tu as dit. C'est-à-dire que quand tu écoutes vraiment les textes, quand tu écoutes l'intonation, quand il chante, tu sens qu'il y a quelque chose qui sort vraiment de lui, de son âme, de son esprit, enfin, je ne sais pas comment l'exprimer, mais qui est touchant. Et en fait, c'est ça qui moi, quand j'ai écouté Daniel, déjà, c'est sa voix, en tout premier lieu, qui m'a captivée. Et après, quand j'ai écouté ses chansons, c'est toute une symphonie, en fait. Tu écoutes tout, enfin... Tu commences à écouter une chanson de chansons, puis en souterrain, c'est comme s'il y avait une symphonie qui montait en toi, et t'es touché ou pas par ça. Enfin, moi, ça m'a touché, et j'espère que le touchera aussi d'autres personnes qui connaissent pas, qui viendront ou par curiosité, ou bah, s'ils connaissent, bah, de réécouter à nouveau.
Et puis d'approfondir. Alors, bah, moi, merci à vous, parce que je connaissais de nom, bien sûr, comme tout le monde, Daniel Johnston, mais ça m'a permis
pas
de...
Pas comme tout le monde, c'est,
oui,
c'est bien le problème.
Ouais, ouais, t'as raison, ouais. C'est vrai. Mais dans nos milieux.
Oui, si ouais, ouais. Ouais.
Et bah, du coup, alors, je pense que les médiathèques de Paris, il n'y a pas tant d'albums que ça, mais par contre, je crois que sur YouTube, Sur Internet,
toutes les plateformes.
Alors, ouais, mais la médiathèque musicale de Paris a récemment acheté beaucoup de disques de Daniel.
Sous ton impulsion.
Exactement, je l'espère.
Bravo.
Et ils ont aussi acquis le livre de Xavier Lelièvre. C'est vraiment intéressant de s'y rendre. Hein. C'est situé à 8 Porte Saint-Eustache dans le 1er arrondissement. C'est la ligne 4, Léal, arrêt Léal ou Étienne Marcel, un peu plus loin.
C'est Wall, ouais.
Voilà.
Eh ben, rendez-vous au 27 alors.
Oui, rendez-vous Christophe. Merci beaucoup Grégory. Grégoire et Christophe.
Merci beaucoup.
Merci,
ouais.
À vous.
Merci Xavier.
Et on termine par quoi alors?
Et on termine par bah, la classique et l'incontournable True Love Will Find You in the End, qui voilà, qui est un peu le tube de Daniel Johnston, si tube.
C'est le hit.
C'est ça.
Yeah.
C'est le hit de l'été.
Allez, salut! Salut les auditeurs!
Salut les kids!
True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out into the light, the light? Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you.